Europe 1, il est midi.
Europe 1 midi, Romain Desarbres.
Bonjour à tous et bienvenue dans Europe 1 Midi, votre grand rendez-vous d'information de la mi-journée sur Europe 1. À la une d'Europe 1 Midi, la décision de justice après le suicide du petit Lucas. Harcelé à l'école, les quatre accusés ont été reconnus coupables de harcèlement, mais pas responsables du suicide du petit Lucas. Mélanie Fachin sera avec nous en direct des Vosges. La crise du secteur du logement, des annonces vont être faites cet après-midi dans Europe 1 Midi. Nous serons avec le ministre du Logement, il va répondre à toutes vos questions dans Europe 1 Midi. Prix, logements sociaux, loyers, Airbnb, vous appelez d'ores et déjà le 01 80 20 39 21, numéro non surtaxé. Emmanuel Macron au Mont-Saint-Michel, symbole de la chrétienté, symbole du patrimoine français, le Mont-Saint-Michel qui célèbre ses 1000 ans. À quel électorat va-t-il s'adresser le président de la République? On verra ça avec Jacques Serret, envoyé spécial d'Europe 1. Une bonne nouvelle, tiens, sur le front de l'inflation, le prix du panier européen n'augmente plus. Il ne baisse pas encore, mais il n'augmente plus. Le détail avec Baptiste Morin. Et puis on ira évidemment à Roland-Garros retrouver Axel May et Cédric Pioline, comme tous les jours. Europe 1, radio officielle de Roland-Garros. La tendance météo, Anissa Dadi, on ne change rien.
Et on prend les mêmes ingrédients et on recommence effectivement comme ces derniers jours. La journée commence bien mais ça va se dégrader sur la moitié sud du pays. Sur la moitié nord, rien à signaler. Un grand soleil grâce à l'anticyclone sur les îles britanniques. Attention aux orages, je vous en reparle dans un instant et il va faire lourd. On attend 30 degrés du côté du Poitou-Charentes et du Languedoc-Roussillon cet après-midi.
Merci Anissa et à tout à l'heure pour la météo complète.
Europe 1 midi.
Un drame encore dans toutes les têtes, 5 mois après. Le suicide de Lucas, collégien de 13 ans, le 7 janvier dernier à Golbey, dans les Vosges. Il ne supportait plus les moqueries et les intimidations de certains de ses camarades, notamment en raison de son orientation sexuelle. 4 collégiens comparaissaient devant le tribunal pour enfants d'Épinal dans cette affaire. La décision est tombée ce matin. Mélina Fachin avec nous. Bonjour Mélina.
Bonjour Romain, bonjour à tous.
La justice ne retient pas le lien de causalité entre le harcèlement scolaire dont le jeune homme faisait l'objet et son suicide ?
Oui, c'est ça. Les deux filles et les deux garçons de 13 ans qui étaient jugés ont été reconnus coupables de harcèlement, mais de harcèlement simple. Ils ne sont donc pas responsables du suicide de leur camarade. Pour autant, la maman de Lucas s'est dite soulagée à la sortie du tribunal.
Oui, c'est du soulagement parce que... quand on disait que c'était de simples moqueries entre enfants, et bien finalement non, c'est vraiment du harcèlement. Et le verdict qui a été rendu est bien parce que voilà, le harcèlement, c'est grave. Et puis, il faut que tout le monde en prenne conscience. C'est ce que j'attendais, que mon fils soit reconnu comme victime de harcèlement scolaire. Et c'est tout ce que je lui devais.
Les avocats des 4 jeunes prévenus avaient demandé la relaxe pour leur client. Cette décision va donc être compliquée à accepter, estime l'une des avocates de la défense, Maître Emmanuel Larrière.
Au final, c'est une déclaration de culpabilité pour eux. Je ne suis pas sûre que dans leur vie de tous les jours, le commun des mortels, entre guillemets, fasse la différence entre ces qualifications juridiques. La question se posera d'un appel éventuel.
En attendant, une autre audience a été fixée au 22 janvier prochain pour déterminer la peine à laquelle seront condamnés ces 4 jeunes. Ils encourent jusqu'à 1 an et demi de prison.
Merci Mélina. Mélina Fachin en direct d'Épinal pour Europe 1. Autre victime du fléau qu'est le harcèlement scolaire, la jeune Lindsay, 13 ans elle aussi, elle s'était suicidée le 12 mai dernier dans le Pas-de-Calais. La famille de l'adolescente sera reçue cet après-midi par le ministre de l'Éducation nationale, Pap Ndiaye. Le procès de l'ex-petite amie de Chaïna s'est ouvert ce matin devant la cour d'assises des mineurs de Beauvais. Cet homme âgé désormais de 20 ans est accusé d'avoir tué, puis brûlé l'adolescente de 15 ans en 2019. Chaïna aurait découvert qu'elle était enceinte quelques jours avant le drame. La jeune fille avait également subi un viol collectif lorsqu'elle avait 13 ans. Comment mettre fin à la crise du logement? La première ministre Elisabeth Borne va faire des annonces cet après-midi en conclusion du Conseil national de la refondation consacré à ce sujet. Depuis quelques mois, le nombre de constructions d'habitats neufs est en chute libre. La hausse des taux d'intérêt et le faible nombre de prêts accordés dissuadent les potentiels acheteurs. Résultat, l'ensemble du secteur du logement se retrouve paralysé. Margot Faudéré avec nous. Bonjour Margot.
Bonjour.
Du service économie d'Europe 1. On connaît déjà les premières mesures retenues par le gouvernement.
Oui, des mesures d'abord pour aider les Français à se financer. Le prêt à taux zéro va être prolongé jusqu'en 2027, mais aussi resserré sur certaines zones en France et sur certains types de logements. La mensualisation du taux d'usure, qui devait prendre fin le 1er juillet prochain, va également être prolongée jusqu'à la fin de l'année cette fois-ci. Et puis il y aura aussi des mesures pour soutenir l'offre de logements. Le gouvernement prévoit notamment le rachat par la Caisse des dépôts et Action Logement de 47 000 logements qui n'ont pas été vendus par les promoteurs immobiliers.
Est-ce que c'est suffisant pour les professionnels de l'immobilier ?
Bien non, les professionnels du secteur sont très déçus. Tous espéraient des mesures fortes, comme Olivier Salleron, le président de la Fédération française du bâtiment, qui était l'invité ce matin d'Europe 1 Matin.
On attendait vraiment des annonces conséquentes. Aujourd'hui, c'est la déception. Quasiment aucune des annonces et des propositions des professionnels n'ont été retenues. Donc oui, on va attendre tout à l'heure cet après-midi pour voir s'il y a deux, trois mesures de plus. Mais on va se remettre au travail très fortement.
Autre grand déçu, c'est la FPI, la Fédération des promoteurs immobiliers, qui affronte une crise sans précédent. En 13 ans, jamais aussi peu de logements neufs n'ont été mis en vente. C'est en partie lié à la chute du nombre de permis délivrés par les mairies, moins 30% en un an. Sur ce dernier point, la FPI réclamait des aides pour les mairies qui, elles, acceptent de construire. Mais à ce stade, aucune annonce n'est prévue à ce sujet. Et puis, autre élément qui déçoit les professionnels, le gouvernement va supprimer le dispositif Pinel pour l'investissement locatif sans le replacer de ce que l'on sait pour le moment.
Merci beaucoup Margot Faudéré. On sera dans un instant avec Olivier Klein, le ministre du Logement. Vous avez certainement beaucoup de questions à lui poser. 01 80 20 39 21 pour interpeller en direct le ministre du Logement. Ça se passe dans Europe 1 Midi sur Europe 1. Emmanuel Macron, face au poids de l'histoire en ce début de semaine, le président de la République est attendu sur les plages du débarquement en Normandie demain pour les 79 ans du D-Day. Et puis aujourd'hui, c'est une visite au Mont-Saint-Michel qui est prévue. On célèbre le millénaire de l'abbaye du Mont-Saint-Michel, Jacques Seret. Vous suivez ce déplacement pour Europe 1. Bonjour Jacques.
Bonjour.
En convoquant ce qu'on appelle le roman national, le chef de l'État ouvre encore une séquence très politique.
Oui, Emmanuel Macron prend la direction de l'ouest de la France et met un coup de barre à droite. Le locataire de l'Élysée n'ignore rien des symboles et aujourd'hui, il compte bien en jouer. Ce sera l'image du jour, lieu historique, emblématique et éminemment politique. C'est ici, en 2017, que Nicolas Sarkozy avait lancé sa campagne présidentielle victorieuse. C'est ici aussi qu'Éric Zemmour avait organisé l'un de ses meetings l'an dernier. Alors Emmanuel Macron visitera tout à l'heure, en fin d'après-midi, l'exposition La demeure de l'archange dans le cœur de l'abbatiale, avant de prononcer un discours aux alentours de 18h30 et au-delà de la célébration du millénaire de l'abbaye pour envoyer un message catholique. Emmanuel Macron compte bien tout à l'heure dans son discours vanter cette France éternelle. Le Mont symbolise tout ce qui fait des Français un peuple de conquérants et de bâtisseurs, décrit son entourage. Ce lieu atteste de la capacité de notre peuple à faire preuve d'adaptation aux époques, poursuit un autre conseiller. Ou comment ne pas y voir une carte postale envoyée à ses opposants à la veille d'une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Après un hiver de tempête, le locataire de l'Élysée s'attelle à prendre de la hauteur au-dessus des eaux et sous le grand ciel bleu de la Normandie.
Jacques Seret du service politique d'Europe 1, merci beaucoup. Merci beaucoup Jacques. On vous parlait la semaine dernière dans Europe 1 Midi du ralentissement de l'inflation. Elle est, cette inflation, de 5,1% sur un an. Et même si la hausse des prix des produits alimentaires reste très importante, 14% au mois de mai, la courbe commence à fléchir. Ça se ressent aussi dans le panier européen. 12 produits du quotidien dont l'évolution des prix est observée par le panéliste Circana. Ce que l'on constate ce mois-ci, Baptiste Morin, bonjour Baptiste, c'est que le coût du panier reste stable. Hein.
Oui, une stabilité qui se confirme mois après mois. Depuis mars, le prix du panier européen n'a presque pas bougé. À 57,49 € en mai, il est 9 centimes moins cher qu'en avril, 26 centimes plus cher seulement qu'au mois de mars. Alors ce plateau s'explique de plusieurs façons. D'abord, c'est le succès des mesures du trimestre anti-inflation. C'est incontestable, les prix des produits de marque distributeur sont stables. Notre partenaire Circana observe aussi une stratégie de baisse des prix chez certaines enseignes pour faire face à la chute des volumes de vente, ça joue donc. Et puis, dans la même logique, les distributeurs ont choisi de lisser la hausse des prix attendue après les négociations commerciales de cet hiver. Les prix n'ont pas grimpé de 10% d'un mois sur l'autre comme c'était redouté. Ceci étant dit, le panier européen se stabilise à un niveau haut, très haut. Sur un an, il a augmenté de 21,5%, soit un peu plus de 10 euros.
Baptiste Morin. Merci Baptiste du service économie d'Europe 1, le panier Europe 1 qui est à retrouver chaque premier lundi du mois en partenariat donc avec le panéliste Circana. Il est midi 10, restez bien avec nous dans un instant. Eh bien, on va parler de ce qui s'est passé, vous vous souvenez? Évidemment, trois hommes qui avaient agressé le petit-neveu de Brigitte Macron à Amiens, le petit-neveu qui gère la chocolaterie familiale. Les agresseurs vont être jugés aujourd'hui. On va retrouver Lionel Gougelot. À tout de suite.
Europe 1 midi, Romain Desarbres.
Une agression qui a provoqué l'indignation du monde politique et bien au-delà. C'était le 15 mai dernier, Jean-Baptiste Trogneux, petit-neveu de Brigitte Macron, qui était roué de coups devant la chocolaterie familiale à Amiens. La scène s'était déroulée quelques minutes après un entretien télévisé accordé par Emmanuel Macron. Trois hommes âgés de 20, 22 et 34 ans sont jugés en comparution immédiate, trois semaines après les faits. Lionel Gougelot avec nous. Bonjour Lionel.
Oui, bonjour Romain, bonjour à tous.
Les suspects étaient jusqu'à aujourd'hui en détention provisoire.
Oui, en fait, vous savez, cette détention provisoire avait été décidée par le tribunal compte tenu du risque de réitération des faits de la part de ces individus, dont deux d'entre eux, il faut le rappeler, sont déjà connus des services de police et de la justice pour des violences et des agressions. À l'audience, il y a trois semaines, le procureur de la République avait bien souligné que ces individus, ce jour-là, s'en étaient pris au petit-neveu du couple Macron en raison du nom qu'il porte, molesté et frappé devant la vitrine de son commerce pour ce qu'il représente. Faisant face à un groupe d'une quarantaine de personnes, Jean-Baptiste Trogneux avait vu l'un de ses voisins s'interposer devant ses agresseurs et 48 heures après les faits, Hervé, c'est son nom, avait justement témoigné au micro de Maximilien Carlier de la violence de la scène.
Ils étaient en train de le frapper au sol, quoi. Il était paumé, il saignait à ses mains. Vous dire exactement si ça aurait été beaucoup plus loin, j'en sais strictement rien. Maintenant, j'ai quand même vu des gens qui étaient vraiment déterminés, quoi. Très énervés, plein de haine, et on le ressentait réellement ça.
Et il faut rappeler que l'un des agresseurs, identifié notamment grâce à la vidéosurveillance, sera retrouvé plus tard en possession d'une lame de couteau d'une vingtaine de centimètres. Alors les avocats de la défense, les avocats des prévenus contestent, eux, la motivation politique de leurs gestes, les décrivant comme des marginaux, faibles d'esprit, au parcours chaotique, des cas sociaux, a même dit l'un de ces avocats, en tout cas très loin, selon eux, de l'image des Black Blocs ou des Gilets jaunes.
Merci beaucoup Lionel Gougelot. La Ligue de football professionnel va rendre une décision cruciale en début d'après-midi. L'instance va décider de faire rejouer ou non le match Bordeaux-Rodez en Ligue 2. Vendredi dernier, cette rencontre avait été interrompue par l'agression d'un joueur de Rodez par un supporter bordelais. Le score a donc été bloqué à 1-0 pour Rodez. Conséquence, les Girondins ratent de peu la montée en Ligue 1 et Rodez se maintient au détriment du club d'Annecy. Mais si le match est rejoué, tout cela pourrait changer. Direction les cours de Roland-Garros.
Retrouvez l'actualité de Roland-Garros avec Winamax.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
Europe 1, radio officielle de Roland-Garros. Bonjour Axel May.
Bonjour Romain.
C'est la suite des huitièmes de finale en ce moment.
Oui, avec une première victoire à l'instant, celle de Ons Jabeur, la Tunisienne, la numéro 7 mondiale. Figurez-vous qu'elle a eu besoin d'une heure et trois minutes. Il ne fallait pas arriver en retard pour battre son adversaire américaine, Bernarda Pera. 6-3, 6-1, Ons Jabeur atteint pour la première fois les quarts de finale à Roland-Garros, celle qui a déjà été deux fois finaliste dans d'autres tournois du Grand Chelem. Et puis, vous avez sur le court Suzanne Lenglen, un match qui est également en cours. Match entre deux joueuses qui, pour l'instant, est en train de tourner à l'avantage de la Brésilienne, Béatrice Haddad Maia, qui est à 6 partout dans la première manche. Après avoir mené, elle s'est fait un peu remonter par l'Espagnole Sara Soribes Torno. Tenez-vous bien, l'Espagnole, elle est 123e mondiale.
Axel May, on connaît déjà les premières affiches des quarts de finale.
Bah oui, parce qu'il y a des huitièmes de finale qui ont commencé hier. Donc mathématiquement, je vais vous les donner. On en connaît quatre. Chez les filles, Svitolina, Madame Monfils, hein, opposée à Sabalenka, la Biélorusse, la numéro 2 mondiale. L'autre quart de finale connu, c'est Mourova, la Tchèque, face à Pavlyuchenkova, la Russe francophone. Hein, elle habite sur la Côte d'Azur. Et puis chez ces messieurs, Alcaraz, le numéro 1 mondial, face à Tsitsipas, le Grec. Et puis l'autre quart de finale connu, c'est Djokovic, numéro 3 mondial aujourd'hui, face à Khachanov, le russe. Donc déjà, des belles affiches, mais on va quand même, hein, Romain, bien sûr, profiter des huitièmes de finale aujourd'hui et se régaler encore un peu plus sous le beau ciel bleu de Roland-Garros.
Évidemment, vous avez bien de la chance. Merci beaucoup, Axel May, en direct de Roland-Garros pour Europe 1. Cédric Pioline avec nous. Bonjour Cédric.
Bonjour Romain.
Consultant Europe 1 pour Roland-Garros, bien sûr. Bon, déjà, on revient sur les matchs de Djokovic et d'Alcaraz. Hier, c'était une promenade de santé, hein. 6-3, 6-2, 6-2 dans les deux matchs. D'ailleurs, c'est amusant, c'est un petit clin d'œil, ça.
Oui, une promenade de santé, quand même, avec une différence notable, à savoir que Djokovic a joué un joueur contre lequel, vraiment, c'était une promenade de santé. Et puis, c'était un petit peu plus indécis, en tout cas, le début du match, rapidement, hein, pendant deux jeux pour Alcaraz, qui a joué Musetti, qui est quand même un joueur qui était tête de série 17, pardon, ici à Roland-Garros. Et comme souvent, hein, ces gros joueurs passent des vitesses à la vitesse supérieure lorsqu'ils arrivent en fin de première semaine, début de deuxième semaine pour les huitièmes de finale. Donc là, c'est vraiment prometteur. Ils sont tous les deux qualifiés pour les quarts et à un match de cette confrontation entre Alcaraz et Djokovic qui nous fait saliver.
Cédric, aujourd'hui donc, les huitièmes, deux matchs excitants, Holger Rune, Francisco Cerundolo et Grigor Dimitrov face à Zverev.
Oui, complètement. Ouais. Complètement, c'est vrai que c'est vraiment intéressant de voir ce que va donner le jeune Rune, qui a une ambition énorme, hein, qui a 19 ans, qui est déjà 6e, 7e mondial. Et Cerundolo, attention, il n'est pas très connu du grand public, mais c'est un des joueurs qui marche très bien depuis le début de l'année. Il est quasiment dans les 20 premiers là, spécialiste de terre battue, donc vraiment à surveiller de très près cette confrontation où Rune devrait, à mon avis, quand même passer.
Merci beaucoup Cédric Pioline. À demain. À suivre ce soir Europe 1 Sport spécial à l'occasion des 40 ans jour pour jour de la victoire de Yannick Noah à Roland-Garros. C'était le 5 juin 1983 avec notamment le duo de commentateurs qui a eu la chance de vivre la finale d'anthologie de Noah contre Mats Wilander sur TF1 ce jour-là. Hervé Dutu, qui était avec nous dans Europe 1 Midi, hein, vendredi dernier, et Jean-Paul Lotte réunis ce soir sur Europe 1 dès 20h. Didier Hamot avec nous pour la Bourse. Bonjour Didier.
Bonjour Romain.
Vous vous souvenez de cette finale?
Bien sûr.
Évidemment, on s'en souvient
tout
tous.
Tout le monde s'en souvient.
On s'en souvient tous. Surtout qu'il n'a pas été remplacé. Hein.
C'est vrai.
Noah.
Toujours là.
Bon. Qu'est-ce que ça donne à Paris, le CAC 40,
calme,
la Bourse?
C'est très, très calme. Il ne se passe pas grand-chose. Moins 0,1% sur le CAC 40, 7262 points. L'actualité financière du jour est plutôt à chercher du côté du pétrole, qui remonte de près de 2% le baril à $78 le Brent, après la décision de l'Arabie Saoudite d'abaisser sa production pour tenter de faire remonter les cours. Pour le moment, l'effet est assez léger et les réactions mitigées. C'est très calme, hein, sur les autres places financières aussi en Europe. Francfort est stable. Bruxelles, plus 0,2%. Madrid, plus 0,3%. Le CAC 40, moins 0,1%. 7262 points.
Merci beaucoup Didier. La météo à présent avec Anissa Haddadi et de nouveaux orages dans le sud. Hein.
Mais si vous nous écoutez sur la moitié sud, au sud d'une ligne Bordeaux-Lyon, c'est vrai que vous voyez de plus en plus, par rapport à ce matin, de plus en plus de nuages qui bourgeonnent, qui se développent et qui vont déclencher des orages. Les premières averses orageuses, pour l'instant, elles concernent les montagnes, hein, Massif central, Alpes, Corse, Pyrénées. Mais ces orages en montagne, ils peuvent déborder jusqu'en plaine, donner de fortes pluies, voire même de la grêle sous les plus grosses cellules. On l'a vu ce week-end à Lyon avec un orage qui a donné l'équivalent d'un mois et demi de pluie en seulement une heure. Donc par endroit, ça risque d'être violent, on va surveiller ça de près, soyez prudents. Les températures, soit à moitié nord, rien à signaler, hein. Vraiment c'est du grand soleil. Les températures, elles, c'est de la chaleur, hein, pour la saison, pour un 5 juin, on a 29 degrés à Lyon, Niort, Chambéry, 29 à Quimper, 28 degrés à Bordeaux et à Paris, 27 à Annecy et Belfort, 25 degrés à Saint-Étienne et Biarritz, 24 à Lille et 17 degrés à Cherbourg.
Merci beaucoup Anissa, midi 21, nous sommes avec Olivier Klein. Bonjour monsieur le ministre.
Bonjour.
Ministre du Logement, toutes vos questions à Olivier Klein au 01 80 20 39 21. Vous appelez, vous passez à l'antenne. On va parler dans un instant. Tiens, il y a Jean-Pierre qui nous appelle de La Rochelle. Il veut parler des loyers impayés. Il y a l'imposition. Beaucoup de questions sur les impôts, les logements sociaux. Appel de Johan de Rennes. Voilà, beaucoup d'appels pour vous poser des questions, monsieur le ministre. Ça sera juste après. Pardon ?
Tant mieux.
Ben oui, évidemment, vous êtes là pour ça.
Absolument.
On se retrouve juste après la publicité sur Europe 1. A tout de suite.